France 24 et RFI présentent Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Ici l'Europe, une émission qui vous est proposée par France 24 et Radio France Internationale. Alors, prise en tenaille entre les menaces américaines et russes et se débattant avec des populistes maison, l'Union européenne n'est pas en très grande forme. Notre invité du jour espère lui redonner quelques couleurs. Il s'agit en effet d'Enrico Letta, deux fois ministre en Italie pour le Parti démocrate, le centre-gauche, donc puis président du Conseil en 2013. Bonjour Monsieur Letta, merci d'être en notre compagnie. Alors, vous êtes président de l'Institut Jacques Delors. Vous faites donc la navette entre l'Italie, la France et l'Espagne régulièrement parce que vous êtes aussi le doyen de IE University à Madrid. Et puis vous êtes surtout l'auteur de ce fameux rapport sur le marché unique et la compétitivité qui sert de référence aujourd'hui à la Commission européenne. Vous venez d'en tirer un livre qui s'intitule « Des idées nouvelles pour l'Europe » chez Odile Jacob. Alors, commençons évidemment par celui qui fait parler de lui, y compris sur le vieux continent, à savoir Donald Trump. Vous conviendrez que l'Union européenne est particulièrement stressée et attend de cet imprévisible président américain qu'on impose de nouvelles taxes douanières éventuellement supplémentaires. Avec quel résultat, selon vous ?
Moi, je pense premièrement qu'il faut un peu changer d'approche avec Trump. Il faut commenter les faits et non pas les annonces. Parce qu'il y a évidemment un effet chaos qu'il cherche de générer avec chaque jour une dizaine d'annonces différentes sur des sujets différents. Il faut commenter les faits. Pour le moment, les faits, c'est qu'il veut attaquer ses alliés, parce que Canada, Mexique, Union européenne, ce sont des alliés sur les questions commerciales. Je pense que l'Union européenne doit répondre soit sur le même domaine commercial, mais je dirais même plus, soit sur d'autres domaines. La finance américaine a besoin de l'Europe. La finance américaine est forte. Si Trump continue à imaginer d'attaquer l'Europe, je pense qu'il faut répondre non seulement sur le commerce, mais aussi sur le côté finance, en cherchant de protéger notre système et évidemment d'éviter d'être une colonie de la finance américaine.
Mais quand vous dites « il faut », est-ce que vous sentez la commission Ursula von der Leyen II et les 27 chefs d'État et gouvernement particulièrement en forme pour répondre du tac au tac à cette menace de Trump, de taxes et puis de toutes sortes d'ailleurs de propos sur...
Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un doute. Le doute est lié au fait que quelques pays pensent qu'avoir une relation personnelle avec Trump va les aider à éviter les coups. Je pense que c'était une grande faute, une grande erreur, parce qu'à la fin, il va attaquer l'Europe en tant que telle. C'est l'Europe qu'il déteste. C'est l'Europe en tant non que
géographie. Mais il la reconnaît
géographie.
Pas même.
Il déteste
européenne.
Le multilatéralisme que l'Europe démontre. Le fait qu'on est tous ensemble, le petit, le grand, on est tous solidaires entre nous. Donc moi, je pense qu'à la fin, il faut éviter que Trump nous divise entre nous. Il faut que tout le monde évite de penser qu'il va attaquer mon voisin et pas moi. Ce n'est pas le fait qu'il va attaquer le camembert et non pas le parmigiano que ça va aider. Je pense qu'il va attaquer l'Europe en tant que telle et il faut répondre tous ensemble.
Oui, mais alors, Enrico Letta, italien justement, vous avez été le candidat social-démocrate face à la très droitière Giorgia Meloni il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, elle a remporté l'élection et elle se présente comme la dirigeante capable de murmurer à l'oreille de Trump quand vous parliez de diviser l'Europe.
J'espère qu'elle va le faire. Ce serait utile pour tous. Ce qu'elles ne doivent pas faire, c'est diviser l'Europe sur ça. Donc on va la voir. Mais il est fondamental que l'Europe parle d'une voix à Trump et que cette voix soit la voix de la présidente de la Commission européenne et de la Commission européenne. Parce que la Commission européenne, à la fin, est l'entité communautaire qui représente tous. Et en plus, elle a la compétence sur le commerce. Parce que dans les traités, heureusement, on a donné à la Commission la possibilité de nous représenter tous. Imaginez-vous ce que serait aujourd'hui chaque pays aller tout seul à la cour de Trump à demander grâce et éviter d'être attaqué. Chaque pays tout seul, petit. ce serait un désastre.
Mais ce n'est pas le cas pour Meloni et Orban, qui sont quand même allés en avance de tous les autres à l'inauguration de Donald Trump.
Oui, ils sont allés à l'inauguration, mais maintenant, ce sont les faits qui comptent. On va voir ce qui va se passer sur les faits.
Bah alors, justement, sur les faits, Giorgia Meloni a qualifié Elon Musk de génie et est en train de signer un contrat à 1,5 milliard d'euros pour 5 ans contre la fourniture d'un accès sécurisé à Internet via le système Starlink pour les opérations du gouvernement italien, de son armée, ce qui met en quelque sorte en péril tous les efforts de construire un système autonome européen.
Vous avez raison, il faut le faire ensemble. Je pense que cette idée que Musk peut nous sauver, aider, ajouter de la modernité, c'est quelque chose qui ne tient pas compte du fait que Musk a toujours dit, a toujours fait comprendre que l'Europe en tant que telle, donc l'idée européenne, l'idée de cette solidarité entre les pays, c'est ce que lui aussi il déteste. Donc nous, nous devons défendre cette solidarité entre nous et il faut le faire ensemble. Donc plutôt que ça, je pense qu'il faut faire ensemble des politiques spatiales. L'espace, moi je l'ai mis dans le rapport que vous avez cité, l'espace doit être un des sujets sur lesquels on travaille ensemble et non pas chaque pays tout seul, parce que chaque pays tout seul, on sera trop petit pour faire des choses. L'Europe a une grande tradition dans l'espace. Il faut le faire, il faut le faire bien, tous ensemble.
Au chapitre d'Elon Musk, notons quand même au passage qu'il a poussé le parti AfD, hein, qui relativise la période nazie en Allemagne. Il l'a poussé en faisant un dialogue sur X avec sa dirigeante Alice Weidel. Il y a des élections en Allemagne très attendues le 23 février, très attendues par toute l'Europe, avec une extrême droite qui est aidée par les Russes et par les Américains. Qu'est-ce qui peut ressortir des urnes, selon vous ?
Premièrement, Musk et X. Le conflit d'intérêts est énorme. Il devrait parler sur d'autres médias, pas sur X. S'il est propriétaire de X, c'est le média dans lequel il ne devrait pas parler. Ça, c'est la règle du capitalisme et de la absence de conflit d'intérêts. C'est exactement le contraire. Et en Allemagne, j'espère bien que AfD ne va pas gagner et remporter les élections, mais il est évident que cette tentative d'aider AfD est une tentative d'aider AfD contre l'Union européenne. Ce n'est pas seulement une question allemande. Si l'Allemagne virait à l'extrême droite, ce serait pour l'Union européenne un coup mortel. Donc je pense que sur ce sujet, les prochaines semaines avant les élections allemandes vont être un test crucial pour l'avenir de l'Europe.
C'est un test crucial pour la droite aussi, plus traditionnelle, mainstream, puisque les chrétiens démocrates de Friedrich Merz ont voté des textes très très anti-migration et surtout avec les voix de l'AfD, ce qui a déclenché véritablement des manifestations. Est-ce que vous êtes inquiet au niveau allemand, mais même au niveau européen, de cette alliance potentielle à l'avenir de la droite avec les voix de l'extrême droite ?
Elle a été exclue il y a quelques jours, soit par Merz. La voix de Merkel était une voix exceptionnellement forte. J'espère que ce soit un dossier complètement clos. Évidemment, j'espère que le résultat des urnes donne une possibilité d'une coalition simple, donc pas une coalition à 3 ou 4, ce serait un désastre. Coalition simple, cohèse et surtout pro-européenne. L'Europe a besoin de l'Allemagne et d'une Allemagne pro-européenne.
Vous misez sur la grosse coalition avec les sociaux-démocrates ou alors peut-être avec les Verts ?
Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, les données, les sondages, je pense que la grande coalition est la chose la plus... c'est la chose qui pourrait aider le plus l'Europe.
Parlons justement de ces coalitions. La Belgique est dirigée maintenant par un nationaliste virulent, l'Autriche par la droite extrémiste du FPE. La Hongrie et la Slovaquie sont toujours dirigées par des leaders populistes souvent proches du Kremlin. Le populisme est-il en train de signer la lente agonie justement de la solidarité de l'Union européenne, et en particulier en matière de défense, en matière d'aide à l'Ukraine, etc.
N'oublions pas Wilders qui est au gouvernement aux Pays-Bas. On est en train de vivre un moment très dur, très difficile. Il est vrai que tous ces mouvements ont beaucoup changé sur l'Union européenne. Tous ces mouvements, il y a quelques ans, ils plaidaient pour sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, aucun d'entre eux parle d'un Dexit, d'un Italexit ou quelque chose comme ça, même Orban. Donc il est évident que la menace et le défi a changé. La chose fondamentale est celle de faire en sorte qu'on puisse faire des choses ensemble sur des sujets sur lesquels eux aussi, je pense la compétitivité, peuvent trouver du bénéfice, avoir des solutions européennes qui puissent être utiles à tous, et comprendre que même pour ces questions de compétitivité, ce n'est pas le fait de faire tout seul que ça va aider. Le point central de mon rapport est de dire que le souverainisme national ne fait que faire jouir Wall Street, l'industrie américaine et chinoise, parce que fragmentant et en étant tous fragmentés et divisés, on finit par aider les Américains, les Chinois et perdre des emplois et de l'argent. 300 milliards d'euros par an de nos épargnes s'en vont aux États-Unis à cause de la fragmentation de notre système de marché financier européen divisé en 27.
Mais le nationalisme, électoralement, ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont, ça hisse les gens au gouvernement maintenant.
Oui, mais quand ce nationalisme demande plus de protection nationale et les emplois s'en vont parce que la souveraineté a besoin d'une dimension européenne, prenez la défense par exemple. Avec cette fragmentation en 27, nous, avec notre argent, l'argent du contribuable européen, on crée des emplois en Michigan, en Pennsylvanie, en Turquie, en Corée du Sud, parce qu'on n'est pas intégré entre nous. Et la même chose avec l'argent du contribuable européen qui devient épargne, qui renforce les entreprises américaines aux États-Unis, qui reviennent en Europe, acheter avec notre argent, l'argent de nos épargnes, les entreprises européennes. Donc il y a là un sujet qui est devenu, ça a été un peu le sens aussi du rapport, et le fait que les 27, tous les 27, avec la déclaration de Budapest, donc faite pendant la présidence hongroise, ait adoubé complètement le rapport, mon rapport et le rapport Draghi, ça veut dire à la fin que cette compréhension du fait que chacun séparé des autres, c'est simplement la perte de pouvoir, de compétitivité et d'emploi.
Alors, précisément, l'un des principes que vous mettez généralement en avant, Enrico Letta, c'est la libre circulation des personnes qui reste importante. Parlons justement mobilité. C'est un programme un peu peu connu, en fait, le Corps européen de solidarité, dont 30 000 jeunes ont bénéficié depuis son lancement en 2016 pour des expériences de volontariat dans le social ou l'humanitaire à travers l'Europe. Luc Brown est allé à la rencontre de ces jeunes volontaires.
Okay, ready. Apprendre en s'amusant, voilà le programme de ces enfants de banlieue parisienne. Alessandro Marasso fait partie des 4 volontaires européens chargés de leur proposer du sport combiné à l'apprentissage des langues.
Parfois, ils ne parlent pas anglais et nous ne parlons pas français, mais on arrive quand même à se comprendre par le langage corporel et avec les mains.
Les volontaires comme Alessandro sont rémunérés à hauteur de 500 euros par mois, avec tout frais de logement et transport payés. Une expérience précieuse.
Ici, j'ai été capable de mettre en place des mécanismes que je n'avais jamais expérimentés avant. Donc oui, ça a changé ma perception du monde, de la société et de mon futur environnement de travail.
L'ONG concernée, Planet Citizens, est parvenue depuis 5 ans, avec l'aide de 50 volontaires, à encadrer 10 000 enfants. Un quart de son budget annuel de 200 000 euros est financé par l'UE. Un volontariat qui fait une vraie différence pour la directrice de l'espace Joséphine Baker d'Épinay-sur-Seine, Zaya Miliani.
Et il y a un retour aussi de ce que nous ont raconté les parents, c'est qu'il y a des échanges. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu? Et du coup, ils échangent aussi un petit peu de vocabulaire avec les parents. Ça crée une ouverture d'esprit et chez les enfants et chez les parents, du coup.
Ces volontaires font partie du Corps européen de solidarité, un programme ouvert aux 18-30 ans dans les 27 pays membres et une dizaine de pays partenaires. Pour 2021-2027, le CES était doté d'1 milliard d'euros, assurant la mobilité de 270 000 volontaires. Mais le prochain budget sera-t-il à la hauteur? La France appelle à une hausse, comme le fait aussi Nadia Belaoui, présidente de l'Agence française du service civique.
L'enjeu, c'est que nos pays et l'Union européenne continuent d'investir et développent leur investissement dans l'engagement des jeunes pour ce que ça apporte en coût évité aussi aux finances publiques. Donc c'est à la fois un bon calcul économique d'investir dans la jeunesse et évidemment un élan du cœur qui doit continuer à exister.
Jeune Français de retour de son CES, Antoine Picarougne ne regrette rien des 10 mois passés au Pays de Galles auprès de personnes handicapées.
On a échangé tellement de choses, c'était des expériences très fortes et on était tous dans une culture qui nous était étrangère. Et en plus de ça, on habitait tous ensemble, donc c'était un mélange encore plus grand de cultures. Donc évidemment, je me sens profondément changé culturellement et je me sens beaucoup plus européen après qu'avant.
Avec le Corps européen de solidarité, les voyages forment la jeunesse et la citoyenneté européenne.
Voilà, Enrico Letta, quand on voit des gouvernements européens aux finances fragiles et capables de réduire ces aides, ce serait un peu dommage, on se rend compte, même pour le sentiment européen, comme on dit.
Un très beau reportage et une très belle expérience. Je pense que ça ouvre le cœur, ça donne l'idée du fait que l'Europe, c'est la solidarité aussi. Vous savez ce que Jacques Delors m'avait dit la dernière fois que je l'ai rencontré avant de commencer mon périple d'Europe pour préparer le rapport. Il m'a dit « Rappelle-toi, tu vas faire un rapport sur le futur du marché intérieur, mais il n'y a pas de marché intérieur de succès sans la solidarité, sans les politiques de cohésion. » Et ça, c'est une leçon très importante qu'il faut tirer parce que le marché intérieur, c'est un succès, mais ça rend fort ceux qui sont déjà forts. Donc il faut aider avec la solidarité, une récupération. Et le fait d'avoir cet élan du cœur, comme le disait la directrice, est quelque chose de très très beau et très important. Il faut que l'Europe soutienne tout ça.
Alors la Commission européenne a lancé sa fameuse boussole stratégique autour de grands axes. Le premier, alléger la réglementation européenne jugée trop contraignante par les entreprises. Et Frans Timmermans, l'ancien monsieur Pacte Vert de la Commission, dénonce une possible mise en cause de toutes les avancées écologiques, notamment sous le coup de boutoir de la droite européenne qui n'en veut plus.
Je pense que le Green Deal, l'avancée verte, est notre mission pour l'avenir. L'Europe l'a choisi. Maintenant, la question clé de cette législature qui vient de commencer est comment financer tout ça. Parce qu'on a fait le choix des règles, maintenant il faut les appliquer. Et pour les appliquer, il faut savoir que ça coûte. Ça coûte parce que faut pas dire aux gens qui travaillent dans l'industrie automobile, tu vas perdre ton travail parce qu'on va passer à l'électrique. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donc un accompagnement financier pour eux, pour les agriculteurs, pour les propriétaires de maisons qui vont avoir leurs maisons, leurs appartements, avec un coût ultérieur pour les rendre éco-compatibles. Donc mon point, moi, c'est qu'il faut financer tout ça. Comment ? Dans le rapport que j'ai présenté, il y a un projet de financement privé-public qui peut être capable de faire ça en créant cette union de l'épargne et de l'investissement, qui est la façon de rendre les marchés financiers européens uniques, en tant que tels attrayants.
Mais on a encore des ambitions, vous dites, vous pensez qu'on a encore des ambitions ?
Oui, on a des ambitions parce que
les choix
ont été faits. Ce que von der Leyen a dit il y a quelques jours en présentant la boussole est un besoin de simplification. On va voir ce que ça va donner, mais il est évident que cette simplification est nécessaire à tous les niveaux. Moi, j'ai fait une proposition dans le rapport, et c'est la suivante. Aujourd'hui, en Europe, on a dans beaucoup de domaines la loi européenne et 27 lois nationales, et en plus les lois régionales qui contredisent souvent. Donc ma proposition est celle de dire, il faut quoi ? Il faut dans beaucoup de domaines, comme dans le droit des affaires par exemple, créer un 28e État virtuel. Donner à ce 28e État virtuel sa propre loi des affaires que les entreprises peuvent choisir. C'est la même qui est valable partout en Europe. C'est un espèce de passe-partout qui évite aux entreprises de devoir changer loi des affaires de pays en pays, ce que seulement les grandes entreprises peuvent faire. C'est une idée qui peut construire un espèce de Delaware européen qui rend les choses plus simples et c'est la chose fondamentale pour être plus compétitif et plus simple.
Une minute pour conclure sur l'avenir du couple franco-allemand avec un gouvernement allemand, on l'a dit, aux urnes et un gouvernement français de François Bayrou qui ne dispose pas de majorité claire. Est-ce que vous êtes inquiet de cette faiblesse ?
Oui, je suis inquiet, on est tous inquiets, parce que l'Europe, sans une forte avancée poussée par les Français et les Allemands, est beaucoup plus faible. Donc moi, j'espère que le gouvernement Bayrou soit capable de jouer un rôle important en continuité, et j'espère surtout qu'en Allemagne, il y ait un gouvernement pro-européen fort qui va sortir des élections et que les deux s'entendent, parce que c'est le bien de l'Europe.
Merci Enrico Letta d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez bien entendu sur nos antennes, à l'actualité européenne et internationale continue.